Et je prie maintenant que ce matin, que ce message puisse te parler vraiment personnellement. Je prie que Dieu vienne traduire le message bien et parfait que je prépare, que je vais communiquer, mais qu'il vienne le traduire vraiment d'une façon personnelle. Je prie vraiment toute la semaine, alors que je préparais ce message-là, je prie vraiment ce matin que ce soit une parole fraîche pour toi. Que ce ne soit pas juste un message parmi tant d'autres ou une prédication parmi tant d'autres, mais je prie que ce soit quelque chose de personnel pour toi. C'est un des passages ce matin qui m'a énormément impacté il y a plusieurs années de ça. J'étais dans une conférence de pasteurs et leaders. J'étais tout jeune pasteur. C'était en 2015, ça fait 9 ans de ça. Puis un pasteur, Rick Warren, qui était là, qui a prêché sur ce passage-là, sur un autre thème, mais ce passage-là, je ne l'ai plus jamais revu de la même manière après ce moment-là. Et je prie que ça fasse la même chose pour toi, que ce n'est pas à cause du prédicateur, mais à cause du passage. Ce matin, que ce passage-là puisse vraiment te marquer. On va être dans Exode, chapitre 3 et 4. Si tu as ta Bible, je t'invite à y aller avec moi pour débuter le message. Exode, chapitre 3 et 4. Puis on plonge directement dans une conversation que Dieu avec Moïse. Moïse, la scène du buisson ardent qui est là, c'est une conversation que Dieu a avec Moïse. Le contexte est celui-ci où le peuple de Dieu est esclave en Égypte depuis des générations maintenant et Dieu avait un plan de libérer son peuple. Et comme Dieu faisait en Exode 3-4, il le fait encore en 2024, il veut utiliser des gens pour accomplir son plan. Quelqu'un devrait dire amen à ça. Vous êtes très endormis ce matin de la première réunion de Ville-Vie Québec. Je vais vous réveiller dans quelques secondes. On a besoin de répondre à ce message-là ensemble. Vous avez besoin de vous réveiller. Donne un coup de coude à ton voisin. Dis, c'est le temps de te réveiller ce matin. Le café, c'est bien, mais le Saint-Esprit, c'est mieux. Dis ça à ton autre voisin. Dis ça à l'autre voisin. On s'en va quelque part ce matin, OK? Dieu avait un plan de libérer son peuple. Et il va maintenant arrêter Moïse dans sa vie, dans la vie courante de Moïse qui faisait ce qu'il faisait toujours. Il était un berger, il gardait un troupeau de brebis. Et Dieu va arrêter Moïse dans tous ses projets, peut-être personnels, dans son petit train va loin, sa vie courante. Et Dieu va arrêter Moïse dans sa vie. Il va lui dire maintenant, Moïse, moi je t'appelle, je veux t'utiliser pour aller libérer le peuple. Et on rentre dans cette conversation où Dieu est en train de dévoiler à Moïse ce qu'il veut faire, de libérer son peuple. Et de l'autre côté de la conversation, on va découvrir Moïse qui argumente avec Dieu ou Moïse qui hésite, où il va trouver toutes sortes d'excuses pour dire « Non, 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 je peux pas être cette personne-là, je peux pas être cette personne que tu appelles. Je comprends ce que tu veux faire, Seigneur, mais pas moi. » Parce que « Non, non, tu te trompes de personne, pas moi. Moi, je peux pas faire ça. Je peux pas appeler à faire ça. Je peux pas aller parler à ton nom, à la première puissance mondiale de l'époque qui était l'Égypte, pour dire hey, « Dieu veut libérer son peuple. Je peux pas faire ça. » Et on rentre dans cette conversation-là dans Exode, chapitre 3, et verset 19, pour commencer, c'est Dieu qui parle à Moïse, il va dire, « Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller. » C'est comme si Dieu dit, « Je sais, Moïse. Moïse, je vois, je connais la situation. Le roi d'Égypte ne vous laissera pas aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Et après quoi, il vous laissera aller. » Regardez la façon que Moïse va répondre dans Exode, chapitre 4, verset 1, la suite de la conversation. Moïse répondit, « Ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. » C'est comme si Moïse dit, « Seigneur, tu veux m'envoyer là-bas, mais alors que je vais dire, voici Dieu m'envoie, personne ne va me croire que c'est vrai. » Et l'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main? » Dieu dit à Moïse, « Qu'est-ce que tu as dans tes mains, Moïse? » Il répondit, un bâton. C'est son bâton de berger, son outil de travail de tous les jours. L'Éternel dit, « Jette-le par terre. » Il le jeta par terre et le bâton se changea en serpent. Moïse prit la fuite devant lui, puis on le comprend. L'Éternel dit à Moïse, « Tends ta main et prends-le par la queue, qui est la manière la plus dangereuse de prendre un serpent. » Et Moïse tendit la main et l'attrapa. Et le serpent redevint alors un bâton dans sa main. L'Éternel dit, « Voilà ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Le titre du message d'aujourd'hui, c'est la question que Dieu a posée, à Moïse au chapitre 4, verset 2. Je te la pose ce matin. Qu'y a-t-il dans ta main? En bon québécois, je te poserai la question aujourd'hui. Qu'est-ce que tu tiens dans tes mains? qu'est-ce que tu tiens dans tes mains? Ce passage-là est extraordinaire. Parce que ce passage-là va nous montrer dans cette conversation-là que Dieu a avec Moïse, il y a un contraste entre ce que la main de Dieu peut accomplir et ce que Moïse tient dans sa main. Il y a un contraste où Dieu va dire, je vais étendre ma main et je vais libérer mon peuple en Égypte. Et tout de suite après, Dieu va pointer vers ce que Moïse, lui, a dans sa main à lui. Et il y a une conversation entre ce que Dieu peut faire avec sa main et ce que Moïse tient dans sa main. Et moi, je te pose la question, qu'est-ce que tu tiens aujourd'hui dans ta main? Qu'est-ce que tu tiens? Moïse va répondre, un bâton. Pour comprendre le contexte de l'époque, avant de plonger dans le cœur du message, il n'y a rien de plus ordinaire qu'un bâton de berger à l'époque. Alors que Moïse est là, arrêté par Dieu dans cette scène-là, dans cette conversation-là, Moïse, il tient son outil de travail. C'est quelque chose qui n'a rien de plus ordinaire qu'un bâton de berger à l'époque. Mais même si c'est ordinaire, c'est extrêmement significatif ce que Moïse tient dans ses mains. Plusieurs théologiens vont dire que le bâton représente beaucoup de choses et c'est vrai. Parce que le bâton de berger de Moïse représente son identité. Ça représente qui il est. Parce que Moïse, c'est un berger. Alors, il tient un bâton de berger dans ses mains parce que c'est ce qu'il est. Je suis un berger, c'est ce que je fais dans la vie, Moïse, et c'est ça que je fais. Je garde des troupeaux de brebis, c'est ce que je fais. Alors, le bâton que Moïse tient représente, c'est quoi qui fait son identité. Ça représente sa source de revenus, comment Moïse gagne sa vie. C'est avec ça, c'est avec le troupeau, la valeur de son troupeau, c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Ça représente aussi son influence. Le bâton de berger servait à diriger les brebis. Alors même si le bâton est pour nous en apparence vraiment ordinaire, pour Moïse, c'est très significatif. Parce que ça représente ce qu'il est, ce qu'il fait, comment il gagne sa vie, son outil de travail. C'est comme si Dieu disait maintenant, qu'est-ce que tu as dans tes mains, puis tu arrives avec toi, ton emploi, quel est ton outil de travail, est-ce que ça représente ta source de revenus. Pour ceux qui travaillent en santé, ça peut être un stéthoscope que tu as dans tes mains. Pour d'autres, c'est peut-être un marteau. Pour d'autres, c'est des outils, parce que tu es mécanicien, mécanicienne. Peu importe les outils, ton laptop, parce que tu travailles en administration. C'est comme si Dieu demande à Moïse, jette par terre, tu as dans tes mains, voici ce que tu as, ce que tu tiens, là, ce qui est ta vie, ton identité, ta source de revenus. Maintenant, mets-la devant moi. Très significatif pour Moïse. Ce n'est pas juste un bâton. Quand Moïse dépose son bâton devant Dieu, ce n'est pas juste un bout de bois. Ça représente tout ce qu'il est, tout ce qu'il possède, ce qu'il connaît. Et le bâton de Moïse, c'est vraiment particulier, puis on va le découvrir dans les prochaines minutes. Le bâton de Moïse, lorsque le bâton est dans les mains de Moïse, tout ce que ça peut faire, ça peut être juste un bâton de berger. Mais ce qu'on va découvrir dans l'histoire, c'est qu'alors que Moïse prend ce qui est dans ses mains et le donne à Dieu, le même bâton va être ce bâton-là. Vous connaissez l'histoire où la mer va se séparer en deux et le peuple de Dieu va traverser. Savez-vous ce que Dieu a utilisé pour séparer l'eau en deux? C'est le bâton, ce même bâton-là dans Exode 3 et 4 que Dieu va utiliser lorsque Dieu va dire à Moïse, frappe la mer. Et la mer s'est séparée en deux dans les mains de Moïse. Ce bâton-là, c'est juste un bâton de berger. Mais lorsqu'il le place dans les mains de Dieu, Dieu fait des choses extraordinaires avec ça. Et suis-moi ce matin, il faut comprendre tout ça avant de plonger dans le cœur du message. Tout ce que Moïse tenait dans ses mains allait toujours rester limité. Ça va rester un bâton de berger. Mais lorsque Moïse l'a rendu disponible pour Dieu, Dieu a accompli des prodiges dans les 10 plaies, l'eau changeait en sang, c'est avec le bâton qui frappait la mer. Lorsque la mer séparait en deux, c'est le bâton de Moïse. Lorsque Moïse l'a mis dans les mains de Dieu, Dieu s'en est servi de façon extraordinaire. Et pour tous ceux qui sont des petits nerds de théologie, je vous donne juste ça parce que je n'ai pas le temps ce matin, mais partout dans la Bible, vous allez voir que dans Exode 3 et 4, lorsque Moïse décrit son bâton, on l'appelle le bâton de Moïse. Mais la seconde que Moïse va décider de l'offrir à Dieu et de dire, voici Seigneur, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je représente, comment je gagne ma vie, tout ça, je le mets dans tes mains à toi. À partir du chapitre 4, on ne l'appelle plus le bâton de Moïse. Partout dans la Bible, on va l'appeler le bâton de Dieu. C'est le même bâton, mais qui a changé de nom. Il a changé d'identité. C'est le même emploi, mais tu le fais pour une autre personne maintenant. Est-ce que tu commences à me suivre aujourd'hui? C'est la même vie, c'est mes mêmes études, c'est mon même travail, c'est ma même carrière, mais maintenant je le fais avec une perspective différente. C'est le même bâton, mais qui sert pour quelqu'un d'autre, par exemple. Et comprends ça parce que c'est là-dedans qu'on va rentrer ce matin. Le bâton dans les mains de Moïse a toujours été limité, mais lorsqu'il l'a rendu disponible pour Dieu, ça a été multiplié. Et le principe pour nous ce matin, c'est que quand je prends ce que moi j'ai dans mes mains, c'est-à-dire ma vie, mon cœur, mes projets, mes ambitions, mon temps, mes dons, mes talents, mon influence, mes finances, tout ce que j'ai dans mes mains, tout ce que je peux tenir dans mes mains, et que je l'offre à Dieu, Dieu peut s'en servir de manière que je ne pourrais même pas imaginer. Tout ce que je vais vouloir garder dans mes mains, mes ressources, mes finances, mon temps, mes affaires, ma carrière, mes projets, mes ambitions, va toujours rester limité. Mais la seconde que je vais faire comme Moïse et je vais dire, tiens Seigneur, je le mets devant toi, Dieu peut s'en servir de manière extraordinaire. Quelqu'un devrait dire amen à ça ce matin. Quand je soumets ce que j'ai dans mes mains à Dieu, Dieu peut prendre ce qui me semble ordinaire, ce qui me semble pas beaucoup, comme un bâton de berger, ce qui me semble peu impressionnant, et Dieu peut le transformer en quelque chose d'extrêmement puissant dans ses mains. Si tu prends des notes, manque pas ça. Si j'honore Dieu avec ce que j'ai dans ma main, la main de Dieu va toujours être sur moi. Et il y en a ici, je pourrais appeler les musiciens. Tout de suite, j'ai déjà prêché. Le message peut terminer maintenant. Si j'honore Dieu avec ce que j'ai dans ma main et je lui offre, sa main va toujours être sur moi. Et c'est le témoignage de Moïse. C'est le témoignage de l'histoire de Moïse. La vie de Moïse est devenue un témoignage, pas de ce que l'homme peut accomplir avec ce qu'il a dans ses mains, pas juste de ce que l'homme peut produire avec ses mains. Le témoignage de la vie de Moïse, c'est maintenant devenu ce que Dieu peut faire lorsque je place ce que j'ai dans ma main, dans ses mains. Et le témoignage de la vie de Moïse, c'est pas juste « voici ce que l'homme peut produire avec ses mains ». Non, le témoignage de la vie de Moïse, c'est « qu'est-ce que Dieu peut faire avec sa main sur la vie de quelqu'un ». Quelqu'un devrait dire « amen » à ça. Quelqu'un devrait dire « amen » à ça. Et c'est ma prière. C'est ma prière pour toi. C'est ma prière pour ta vie. C'est ma prière pour ta famille. C'est ma prière pour notre Église. Parce que je ne veux pas que le témoignage de ma propre vie ou de ta vie ou de notre Église, c'est hey, « voici ce qu'ils ont fait, voici ce qu'ils ont bâti, voici ce qu'elle a fait de sa vie, voici ce qu'il a fait de sa vie. » Il faut que le témoignage de nos vies devienne comme celui de Moïse. Pas ce que nos mains ont produit, mais ce que la main de Dieu a produit. Et ça, pour ça, il faut lui donner ce qu'on a dans nos mains. C'est ça le témoignage de Moïse. Pas ce que ses mains ont produit, mais ce que la main de Dieu a produit dans sa vie. Ça, c'est ma prière. Si je place ce que j'ai dans mes mains et je les mets dans ses mains, Dieu va le multiplier. Et dans tout le livre d'Exode, la main de Dieu à partir d'Exode 3, 4, du moment que Moïse va prendre ce qu'il a dans ses mains et il va l'offrir à Dieu, à partir de ce moment-là, la main de Dieu va être sur la vie de Moïse. Et nous allons voir ce matin comment la main de Dieu s'est traduite. Puis c'est rare que je fais ça, mais je vous donne tous mes points d'avance aujourd'hui. Dans la vie de Moïse, la main de Dieu va être sur lui. Et vous allez voir toutes sortes de références de la main de Dieu partout. La main puissante de Dieu. Vous allez voir que la main de Dieu peut produire des choses dans nos vies que nos mains ne pourront jamais produire. Que si la main de Dieu vient sur ta vie spirituellement, elle peut produire dans ta vie des choses que même si tu essayais de toutes tes forces, tu ne pourras jamais le faire. On va aussi voir ce matin que la main de Dieu peut nous protéger de façon que nos mains ne pourront jamais nous protéger. Alors que j'essaie des fois de me protéger avec mes propres mains. Si la main de Dieu vient sur nous, sur nos familles, sur notre Église, la main de Dieu peut nous protéger beaucoup plus que nos propres mains peuvent nous protéger nous-mêmes. Amen. Et la main, dernière chose qu'on va voir ensemble ce matin, la main de provision de Dieu. Alors que je peux essayer de pourvoir pour moi et de produire des choses par mes mains à moi, si je place ce qui est dans mes mains, je les donne à Dieu, sa main peut pourvoir pour moi d'une manière que jamais mes mains pourront pourvoir pour moi-même. Et ça va être une parole pour quelqu'un ce matin. La première chose que Dieu veut démontrer à Moïse, c'est la puissance de sa main. Que si je suis capable de lui confier ma vie, que je place dans ses mains ma vie, que je place mes ambitions, mes projets, ma vie, mon cœur, tout ce que je possède, mes finances, mes dons, mon talent, tout ce que j'ai, Seigneur, c'est pour toi. Dieu va mettre sa main puissante sur nos vies. Puis c'est ce qui arrive. On l'a lu tantôt, Exode 3, verset 19. « Je sais, Dieu parle, que le roi d'Égypte ne vous laissera pas aller. » Ça ne fait pas de sens que le roi, le pharaon de l'époque, libère le peuple qui est le cheap labor. C'est juste c'est des gens qui sont là, qui sont des esclaves qui permettent de construire l'Égypte, de bâtir l'empire de l'Égypte pratiquement gratuitement. Jamais un pharaon voudrait juste libérer ce que les théologiens, les historiens vont nous dire comme étant des millions de personnes. On ne parle pas ici d'un peuple de 422 personnes. On parle de plusieurs, probablement millions de personnes avec les femmes, les enfants, qui le peuple de Dieu qui était là. Dieu dit, je le sais qu'il n'y a pas un pharaon qui voudrait faire ça, si ce n'est par une main puissante. Tes mains, Moïse, pourront peut-être jamais le faire, mais peut-être que ma main, verset 20, j'étendrai ma main. Dieu dit pas à Moïse, va étendre tes mains. Dieu dit à Moïse, je vais étendre ma main. Et je le frapperai, l'Égypte, par toutes sortes de prodiges, que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Dieu dit à Moïse, je sais que le Pharaon ne vous laissera pas partir, sauf si il y a une main plus puissante que la sienne qui pourrait la forcer, par exemple. Qui pourrait forcer sa main. Peut-être que ce n'est pas la tienne, Moïse, mais peut-être que si une main plus puissante que la sienne intervient, ben peut-être que là, il va vous laisser aller. Et la parole de Dieu pour nous ce matin, c'est l'Esprit de Dieu qui vient jusqu'à nous et qui dit, je sais, comme Dieu a dit à Moïse, je sais qu'il y a des choses dans ta vie ce matin que si même tu essaies de toutes tes forces avec tes mains à toi, il y a des choses qui ne peuvent pas changer. Qu'il y a des portes qui ne peuvent pas s'ouvrir dans ta vie. Tu aimerais ça, forcer la porte. Et Dieu dit, comme il a dit à Moïse, je sais que des portes peut-être ne s'ouvriront pas comme tu penses. Qu'il y a des circonstances que tu aimerais changer avec la force de tes mains, mais je sais que ces portes-là ne vont pas changer. Il y a peut-être des relations ce matin. Puis Dieu dit, je sais qu'il y a des relations qui sont peut-être brisées en ce moment, que tu as essayé, toutes tes forces de les restaurer, mais ça ne marche pas. Peut-être que tu es là aujourd'hui et il y a des dépendances qui sont là. C'est comme si l'Esprit de Dieu nous dit jusqu'à aujourd'hui, je sais qu'il y a des dépendances que même si tu essaies de les renverser, même humainement, tu as tout essayé, il y a des choses qui ne changent pas dans ta vie. Je sais qu'il y a des bâtiments qui existent à Québec. Je sais que des bâtiments ne voudront jamais vous vendre au prix que vous avez à offrir. Mais s'il y a une main plus puissante que la sienne là-bas, peut-être que... Sauf si il y a une main plus puissante que la sienne arrive et intervient. Et Dieu dit à Moïse, je sais que le Pharaon ne vous laissera pas aller, sauf si une main puissante intervient. Et il y en a ici ce matin, c'est un message qui est pour toi. Parce que l'Esprit de Dieu vient dans ta vie, dans ta situation, dans tes circonstances, dans ta saison ce matin. Dieu dit, je sais qu'il y a des choses qui ne changent pas en ce moment dans ta vie. Mais si, ce matin, mais si une main puissante intervient, ça peut changer. Ça peut changer. Il y a des choses que tes mains, tu dis jamais je pourrais faire ça. Puis c'est vrai ce matin. Et moi je dis amen à ça, c'est vrai. Il y a des choses que nos mains ne peuvent pas changer. Mais si la main de Dieu, qui est plus puissante que toutes nos mains réunies ensemble, vient et intervient dans cette situation-là, dans le nom de Jésus, il y a des choses qui peuvent changer ce matin. Il y a des choses qui peuvent changer. La main de Dieu sur une personne. La main de Dieu sur une famille, la main de Dieu sur une église peut accomplir infiniment plus que nos mains humaines peuvent produire. Quelqu'un devrait dire amen à ça. C'est ce que Dieu est en train de dire à Moïse. Je sais que le Pharaon ne vous laissera pas aller, mais si une main puissante intervient. Puis Dieu dit tout de suite après, j'étendrai ma main. Puis c'est une parole pour quelqu'un aujourd'hui. Si tu honores Dieu avec ce qu'il y a dans tes mains, si Moïse fait juste dire à Dieu, non, je m'en vais, jamais je vais faire ça, puis reprend son bâton, puis retourne à son ancienne vie, jamais Moïse va expérimenter la main de Dieu. Mais ça va prendre quelqu'un comme Moïse qui, même malgré les doutes, malgré les peurs, malgré ce que je ne crois pas, malgré ce que je ne vois pas, Moïse qui dit « je ne suis pas capable de parler, puis s'il ne me croit pas, puis qu'est-ce qui arrive? » Mais ça va prendre des gens comme Moïse dans cette église qui vont dire « Seigneur, je ne vois pas comment tu peux m'utiliser, je ne vois pas comment ça peut arriver, puis si jamais ça n'arrive pas, puis, mais je vais quand même te donner ce que j'ai dans mes mains, je vais le mettre dans tes mains. » Et c'est là que Dieu va dire « j'étendrai ma main. J'étendrai ma main. » Il y en a ce matin, tu le crois intellectuellement, mais il va falloir que tu le vives spirituellement. Ça veut dire, Seigneur, ce n'est pas juste pour les autres, ce n'est pas juste ailleurs, c'est pour moi aussi. Ça veut dire, Seigneur, je veux prendre ce que j'ai et je veux le mettre dans tes mains parce que je suis tanné de voir ce que mes mains peuvent produire. Je veux voir ce que ta main peut produire. S'il y a quelqu'un ce matin qui saisit ça, ta vie peut changer ce matin. C'était impensable à l'époque. Impensable qu'un homme comme Moïse, avec son bras droit Aaron, se présente en Égypte dans la puissance numéro un mondiale. On est 13 siècles avant Jésus-Christ environ à ce moment-là. La première puissance mondiale, c'est le Pharaon, c'est l'Égypte. C'est eux qui dominent. C'est la nation la plus puissante. C'est la nation la plus riche. C'est eux, c'est les Égyptiens. C'est le Pharaon, c'est l'homme le plus puissant. C'est impensable qu'un homme comme Moïse, même si c'est un homme rempli de dons, un homme rempli de capacités de leadership, même s'il arrivait avec la meilleure stratégie, c'est impensable de libérer le peuple des mains du Pharaon. Ses mains à Moïse n'avaient pas la force nécessaire. Les mains de Moïse n'avaient pas l'autorité nécessaire, il n'y avait pas la puissance nécessaire, mais la main de Dieu l'avait. Et peut-être que tu es ici ce matin et tu as essayé d'accomplir des choses par tes propres mains pendant longtemps. Peut-être que ça fait longtemps ce matin que tu essaies de changer des circonstances. Ça fait longtemps que tu essaies de stratégie à une autre méthode, à une autre, de changer quelqu'un, de changer le cœur d'une personne, de changer une situation, de produire des résultats. Peut-être que ça fait longtemps que tu essaies de produire des choses par tes propres forces, par tes propres mains, de rétablir des situations par tes propres mains, d'ouvrir des portes de tes propres forces, d'essayer de toutes les manières possibles, d'essayer de briser la porte, de casser la poignée, d'essayer de toutes les façons possibles d'ouvrir des portes par tes propres mains jusqu'à ce matin. Et malgré tous tes efforts, malgré toute ta consécration, malgré toutes tes bonnes intentions, tu n'as jamais été capable de produire ce que tu essayais de produire. Ce matin, la parole de Dieu pour toi, c'est que c'est peut-être l'heure de changer de main. De mes mains ne fonctionnent pas, Seigneur. Alors ce matin, je le mets dans tes mains à toi et je veux voir ce que tes mains peuvent produire. Quelqu'un devrait dire « Amen » à ça. C'est le temps de changer de main. C'est le temps pour quelqu'un ce matin de dire « Seigneur, j'ai essayé de changer l'autre personne. J'ai essayé de changer son cœur. J'ai essayé de rétablir les choses. J'ai essayé d'ouvrir certaines portes. J'ai essayé de transformer les choses. J'ai essayé de convaincre des personnes. J'ai essayé de convaincre mon ado. J'ai essayé de convaincre mon mari. J'ai essayé de changer mon mari. Dites pas amen à ça. J'ai essayé de le changer. J'ai essayé des choses, Seigneur. Il y a des portes que j'ai essayées avec toute ma capacité, mes stratégies, mes connaissances, mon intelligence. J'ai essayé, Seigneur, de faire les choses. Mais ce matin, le message de l'Éternel, c'est de dire, c'est le temps de changer de main. T'as essayé avec les tiennes. Essaye la main de Dieu ce matin. Et dire, Seigneur, c'est pas par mes propres forces, mais c'est par ton esprit maintenant. Ta main puissante peut le faire. Parce que parfois, dans nos vies, c'est pas seulement d'essayer plus fort. Puis on essaye parfois. Mais ce n'est pas juste d'essayer plus fort ou d'essayer de forcer les choses. Parfois, c'est juste de le placer dans les bonnes mains. Ce n'est pas d'essayer plus fort ce matin. Le message de l'Évangile, le narratif biblique, il y a des choses qui sont dans notre cours. Il y a une responsabilité humaine où je dois faire ce que Dieu m'appelle à faire. Mais lorsque je me bute à des portes fermées, pas des impasses, pas des impossibilités, mais vient un moment où le message, c'est plus juste d'essayer plus fort. Mais c'est de me soumettre plus à sa main, à lui. Ça veut dire, Seigneur, ma main peut aller jusque-là. Maintenant, pour la suite, j'ai besoin de la tienne. Et c'est le message pour quelqu'un aujourd'hui. Parce que la main de Dieu est puissante. Et c'est ce que Dieu va prouver. C'est ce que Dieu va prouver à Moïse. Après avoir fait ce que je pouvais moi, maintenant, c'est le temps de mettre mon mariage dans les mains de Dieu. Pas de forcer encore, puis d'essayer de taper encore, puis d'essayer de forcer. Non, je le mets dans ses mains. Puis je fais confiance. Je vais prier, je vais jeûner, je vais m'attendre à lui, mais je vais arrêter de forcer avec ma main. Peut-être pour certains aujourd'hui, c'est de je vais mettre mes enfants dans les mains de Dieu. J'ai essayé de leur enseigner, je leur ai tout montré du mieux que je pouvais, je les ai élevés dans les voies de Dieu, j'ai essayé de tout faire, puis ils s'en vont à gauche, ils s'en vont à droite. Peut-être que cette saison-ci, c'est la saison où Dieu dit, c'est pas le temps de taper sur leur tête encore à coups de verset, c'est de juste les placer dans les mains de Dieu, de prier, de jeûner et de t'attendre à Dieu dans leur vie maintenant qu'ils sont capables de prendre leurs propres décisions. Ce n'est pas de forcer plus fort, mais c'est de m'attendre à lui plus, par exemple. Pour certains, c'est ton futur. Il y a des dépendances que tu j'essaies tellement. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est de dire, je veux placer ma vie dans les mains de Dieu. Je veux confesser que j'ai besoin de Dieu. J'ai essayé par mes propres forces. Je suis allé voir des professionnels, puis je t'encourage à le faire, puis à continuer de le faire. Mais il y a un bout de chemin qui peut-être appartient à Dieu, par exemple. Ou c'est peut-être maintenant de dire, je fais ce que je peux, je m'en vais voir des professionnels, mais maintenant, je veux confesser que j'ai besoin d'une touche de Dieu. Je suis un pécheur qui a besoin d'un sauveur et j'ai besoin que l'Esprit de Dieu me libère. Et ça, c'est peut-être le bout de chemin que tu as à faire ce matin. Pour nous, en tant qu'Église, il y a un bout de chemin qui vient, où il est pour un bâtiment, et où ce qu'on va faire, tout ce qu'on peut faire, on budgète comme on peut budgéter. On essaie d'être des intendants de tout ce que Dieu nous donne. Mais il y a un bout de chemin qu'on dit, Seigneur, ce bâtiment-là est dans tes mains à toi. Il y a un bout de chemin que moi, je ne peux pas faire, que David ne peut pas faire, que nous, on ne peut pas faire. On a un bout de chemin que, Seigneur, là, on a besoin de voir ta main dans le projet. Nos mains, on peut gérer. On va être les intendants de ce que tu mets dans nos mains. Mais après ça, il y a un miracle qui n'est pas dans nos mains, qui est dans tes mains. Et vient le moment, Seigneur, on veut voir ta main puissante agir. Quelqu'un devrait dire amen. Quelqu'un devrait dire amen. C'est sa main qui va convaincre des gens. C'est sa main qui va guérir. C'est sa main qui va ouvrir des portes. C'est sa main qui va te soutenir. On a besoin de faire confiance à sa main maintenant. Et ce matin, peut-être que pour toi, c'est le temps de changer ta main. La main puissante de Dieu qui va libérer son peuple. La deuxième chose que Dieu va montrer à Moïse, c'est que sa main est aussi là pour protéger. Ce n'est pas juste la main puissante qui est capable de libérer le peuple d'Égypte. Sa main est aussi là pour protéger son peuple jusqu'en 2024. Parce qu'alors que la main puissante de Dieu va sortir, va convaincre le Pharaon de libérer le peuple, en s'en allant d'Égypte, va se diriger vers la terre promise. On sait dans l'histoire qu'il y a plus de 40 ans avant qu'ils entrent dans la terre promise, mais alors qu'ils sont sortis d'Égypte, le Pharaon va changer d'idée. En réalisant, il y a comme une réalisation, là, je viens de laisser aller toute ma main-d'œuvre, puis on doit aller les rechercher. Puis alors que le peuple de Dieu se retrouve maintenant face à la mer Rouge, la mer qui est là, qui est une impossibilité, le peuple voulait traverser une mer qui est là, c'est un étendard impossible qu'on la traverse. Puis alors que le peuple de Dieu se retrouve entre la mer, en arrière d'eux maintenant, il y a des centaines de chars. Vous savez, les chars, c'est à partir d'Exode, vous savez ça? Les chars, nous on dit les chars au Québec, c'est à partir d'Exode, vous lirez votre Bible. Il y a plus de 600 chars qui sont là, des Égyptiens qui sont en train de poursuivre les Israélites, en train de poursuivre le peuple de Dieu parce que le Pharaon a changé d'idée en disant non, c'est pas vrai qu'on va les laisser partir comme ça, on va aller reprendre tout ce qu'ils nous ont pris, puis on va aller maintenant les ramener pour qu'ils viennent servir avec nous. Puis regardez ce qui arrive. Dieu va prouver que sa main, lorsque moi je place ma vie dans la sienne, sa main maintenant va me protéger. Regardez ça dans Exode 15. L'ennemi disait, je les poursuivrai. Ça, c'est le Pharaon, le roi d'Égypte qui dit ça. Je les poursuivrai, je les rattraperai et je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie et je tirerai mon épée. Regardez ça. Ma main les détruira. La main de Pharaon. Regardez ce que Moïse va dire. Mais Seigneur, sois soufflé de ton haleine. La mer les a couverts. Alors que le peuple a traversé cette mer-là, séparée en deux. Lorsque les Égyptiens ont voulu traverser, Dieu a fermé la mer sur eux. Tous ces Égyptiens ont été engloutis, sont morts dans la mer. Et se sont enfoncés comme du plomb dans l'eau profonde. Qui est semblable à toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi, magnifique de sainteté, redoutable, digne d'être loué, capable de faire des miracles? Regardez ça, ce que Moïse va dire. Sois tendu ta main droite. La terre les engloutit. Dans ta bonté, tu as conduit, tu as racheté ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers ta sainte demeure. Ce qui est fascinant là-dedans, là, Exode 15, il y a un portrait du combat entre la main de l'ennemi et la main de Dieu. Est-ce que tu l'as vu dans le texte? Pharaon qui dit, je vais étendre ma main, puis ma vengeance sera assouvie. Je vais aller rattraper le peuple, puis je vais me venger. Puis on va les tuer, puis on va les prendre, puis on va se séparer le butin ensemble. La main de l'ennemi qui veut détruire. Puis Moïse qui dit, non, mais Seigneur, tu as étendu ta main pour nous protéger. Et je n'ai pas le temps ce matin, mais c'est un portrait du combat spirituel qui est là. Du combat de l'ennemi qui veut venir détruire contre la main de Dieu qui est là pour nous protéger. Et la main de Dieu, lorsque je fais comme Moïse et que je place ce que j'ai dans mes mains, dans les mains de Dieu, je peux avoir confiance que sa main me protège. Et ça, c'est une parole pour quelqu'un. Que sa main va me protéger. Le témoignage de la vie de Moïse, c'est que peu importe quelle main va se lever pour m'arrêter, pour me détruire, pour me voler, si la main de Dieu est sur moi, il n'y a aucune autre main qui peut avoir le dessus sur la main de Dieu. Qu'il n'y a aucune autre main, aucune autre arme, aucune attaque qui peut avoir le dessus sur la main de Dieu. Quand j'honore Dieu avec ce que j'ai dans mes mains, quand je glorifie Dieu et quand je soumets ma vie à Dieu et que sa main est sur moi, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de combat. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais d'attaque. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de blessure. Mais je peux avoir confiance que ultimement, sa main va me protéger. La main de Dieu n'a pas empêché, suis-moi ce matin, c'est pas un évangile bonbon ce matin. La main de Dieu n'a pas empêché le Pharaon de poursuivre le peuple. Ça n'a pas empêché le Pharaon de planifier, voler, se venger. Mais la main de Dieu a empêché la main de l'ennemi d'avoir la victoire, par exemple. Alors, ce que ça veut dire dans nos vies, comme l'apôtre Paul l'a prêché, dans le Nouveau Testament, vous allez voir ça partout, qu'il n'y a aucune arme qui est forgée contre moi qui va prospérer. Ça veut pas dire qu'il n'y aura jamais une arme qui va être formée contre moi, par exemple. Ça veut dire que comme le Pharaon, l'ennemi va forger toutes sortes d'armes pour venir contre nous, pour nous décourager, pour nous voler, pour nous détruire. Mais ça veut dire qu'ultimement, ces armes-là ne vont pas prospérer. Ça veut dire que la main de Dieu ne laissera pas la main de l'ennemi l'emporter. Si j'honore Jésus avec ma vie, si je marche avec Jésus, si je place ma vie dans ses mains à lui, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de blessure, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des gens qui vont se liguer contre nous parce qu'ils sont mal intentionnés et ils veulent nous blesser. Ça va arriver, je te le prophétise. Mais ça veut dire que ultimement, si je marche avec Dieu, sa main va être ma vengeance. Sa main va prendre soin de moi. Sa main va être ma justice et sa main va me protéger. Quelqu'un devrait dire amen à ça. Applaudissez encore juste 10 secondes, le temps que je décide que je coupe. Nous avons besoin de la main de Dieu sur nous. Pas ma main, sa main. L'année dernière, lorsque Jacob grandit, on commence à enlever les petits trous sur son vélo, puis que Jacob dit « Papa, je suis capable de le faire, papa, je suis capable de le faire. » Puis « OK, parfait, Jacob, mets-toi tout l'équipement de hockey que t'as, puis vas-y. » Puis Jacob commence à plus de petits trous en vélo et commence juste à pédaler. Puis là, moi, je l'entends. « Papa, je suis capable! Papa, regarde, je tombe pas! Papa, je suis capable! Papa! » Puis moi, je dis rien. Mais ce que Jacob réalise pas la première fois qu'il fait du vélo pour le petit trou, c'est que c'est ma main en arrière qui tient le vélo. Et Jacob, « Papa, papa, je tombe pas! Papa, je suis capable! Regarde, papa, regarde, papa! » Et ce que Jacob réalise pas, c'est ma main qui tient en arrière, il y a une petite poignée sur son petit vélo. C'est ma main qui tient l'équilibre. C'est ma main qui tient Jacob. Puis pendant que Jacob lui avance dans la vie, pensant accomplir des choses extraordinaires, c'est ma main qui tient. Il vient un moment où on doit dire, « Seigneur, regarde, wow! » Regardez ce que Dieu fait. Moi, je le dis, puis Seigneur, je le dis devant toi ce matin. Quand moi, je dis, Seigneur, regarde ce que tu fais dans ma vie. Regarde comment Dieu m'appelle. Regarde les bénédictions. Regarde l'église. Regarde trois réunions. Il y a Dieu en arrière qui dit, JP, il comprend pas. Lui, il comprend rien. C'est ma main qui le protège en arrière. C'est ma main qui est une main qui est là comme ça. On a besoin de la main de Dieu sur nous. C'est sa main. C'est sa main qui nous protège. On a besoin de sa main. Sur nos vies, sur nos familles, sur notre Église. On a besoin de réaliser que c'est sa main qui rend ça possible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat, qu'il n'y aura pas de blessure. Mais les stratégies de Dieu sont différentes de celles du monde. Okay? Suis-moi ce matin. Parfois, on se bat avec nos mains à nous. Okay? On veut prendre les choses dans nos mains à nous. On veut se faire justice nous-mêmes. On veut forcer les choses nous-mêmes. On veut prouver qu'on a raison nous-mêmes. On veut prouver que les autres ont tort nous-mêmes. On veut se défendre nous-mêmes. Et c'est quoi? Ces stratégies-là, c'est exactement ces stratégies-là qui viennent qu'on n'a plus de paix, qu'on n'a plus de joie, qu'on est complètement vidé émotionnellement, qu'on est vidé spirituellement, qu'on est vidé physiquement. On n'est plus capable, on est fatigué sous le poids d'essayer de se battre nous-mêmes. Et ce que Dieu va prouver à Moïse, parce qu'alors que le peuple est poursuivi par les Égyptiens, le peuple commence à chialer. Le peuple commence à dire, on n'aurait jamais dû partir. On n'aurait jamais dit, on va juste retourner, comme ça au moins nous nourrissons les autres. Savez-vous ce que Moïse va faire? Moïse va faire taire le peuple. Je n'ai pas le temps ce matin, mais il va faire taire le peuple. Puis il va leur dire, arrêtez de chialer. Et là, c'est une parole pour toi ce matin. Arrêtez de chialer. Restez en place. Et laissez Dieu combattre pour vous. Vous lirez dans Exode 14, 15. C'est ça qui arrive. Parce que les stratégies de Dieu sont différentes. Moïse est en train de leur dire, arrêtez d'essayer de vouloir régler la situation avec vos mains, vos solutions, vos arguments. Laissez ma main intervenir pour vous. Quand je marche avec Dieu, que je place ma vie dans ses mains, je dois faire confiance que sa main est puissante, mais je veux aussi faire confiance que sa main me protège. Ça veut dire que lorsque les attaques viennent, lorsque les combats sont là, lorsque les injustices arrivent, lorsque les imprévus arrivent, je veux faire comme Moïse a dit, je veux me tenir et je veux faire confiance que la main de Dieu est sur moi et sa main va me protéger. Amen. Amen. Et pour plusieurs ce matin, c'est le temps de changer de main. C'est le temps de changer de main dans les combats, dans les blessures, dans ce qui t'arrive. C'est le temps de changer de main. Il y a des combats qui ne vont pas se gagner à coups d'arguments. Il y a des combats qui ne vont pas se gagner par ton intelligence, par la capacité que tu as de répliquer. Par la capacité de toi de te faire justice toi-même, il y a des combats qui vont arriver, qui vont se gagner par la main de Dieu dans la situation. Et c'est une parole pour quelqu'un ce matin. Puis je termine avec cette dernière pensée. Que Dieu va prouver à Moïse que sa main, non seulement elle est puissante, il y a des choses que juste sa main va pouvoir faire, que sa main protège, qu'il y a des choses que je ne veux pas reprendre dans mes mains et essayer de me faire justice moi-même. Et ça, je veux juste dire, Seigneur, je crois que ta main est sur ma vie. Puis la dernière chose, c'est que sa main pourvoit. Pour toute chose. C'est la main de Dieu pour voir. C'est fascinant pour moi parce que le bâton de Moïse, c'était sa source de revenus. C'est comme ça qu'il gagne sa vie. Mais tout le témoignage de la vie de Moïse par la suite, Moïse se retrouve à faire des choses qu'il ne connaissait pas. C'était pas juste d'être un berger de brebis. Maintenant, il était le berger d'un peuple complètement différent. mais la main de Dieu qui vient sur lui et va pourvoir à chaque étape. Exode 3, 21. Alors que Dieu est en train de promettre à Moïse qu'il va pourvoir, regardez ça. « Je gagnerai même la faveur des Égyptiens à ce peuple. Et quand vous ne partirez pas les mains vides. » Ah Seigneur, j'essaie de produire, je travaille fort, j'essaie d'épargner, j'essaie de faire. Puis Dieu dit non, si tu places ta vie dans mes mains, si tu honores ta vie avec ce que tu as dans tes mains, tu me le donnes, tu vas partir et tu n'auras jamais les mains vides. Moïse, si tu réponds à cet appel-là, de dire maintenant, jette ton bâton, lâche ça, suis-moi, obéis-moi. Non seulement je vais libérer le peuple, mais vous n'aurez pas les mains vides. Qu'est-ce qui est dans ta main? Il y en a, tu me dis, mes mains sont vides. La parole de Dieu pour toi aujourd'hui, c'est prends ce qui te reste dans tes mains, honore Dieu avec. Et je vais te promettre une chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de période serrée financièrement, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de période serrée où tu as besoin que Dieu pourvoie, mais tu n'auras jamais les mains vides avec Dieu. Tu n'auras jamais les mains vides. Tu n'auras jamais les mains vides. Dieu dit, vous n'aurez pas les mains vides. Puis Dieu accomplit ça. Dans Exode 12, lorsqu'ils sortent, regardez ça, lorsque Dieu libère, sa main puissante qui libère, les Israélites se conformèrent aux indications de Moïse et demandèrent aux Égyptiens des objets en argent et en or, ainsi que des vêtements. Imaginez, ceux qui nous oppressent depuis des générations, maintenant le peuple dit, « Ouais, on va avoir besoin de toutes vos REER, on va avoir besoin de toutes vos épargnes, on va avoir besoin de vos comptes de banque. S'il vous plaît, juste liquidez ça, mettez ça dans des poches, on va prendre l'argent cash. Puis vos garde-robes, videz-les. On va en avoir besoin pour la route parce qu'on s'en va en terre promise. » Imaginez, qu'est-ce qui arrive? C'est que le peuple de Dieu est en train de demander aux Égyptiens de leur donner leur argent, leur or, leurs vêtements. Et regardez ça, l'Éternel gagna au peuple la faveur des Égyptiens qui répondirent positivement à leur demande. La main de Dieu qui pourvoit à travers leurs ennemis. Ils dépouillèrent ainsi les Égyptiens. Jamais que les mains de Moïse auraient pu convaincre les Égyptiens non seulement de les libérer, encore moins de les dépouiller pendant qu'ils libèrent. Mais la main de Dieu, c'est ce qui est écrit, l'Éternel gagna au peuple la faveur des Égyptiens. Ce n'est pas les mains de Moïse, c'est la main de Dieu sur le peuple. Dieu a pourvu pour eux avec les ressources de leurs ennemis. Quand tu honores et que tu soumets ce que tu as dans tes mains à Dieu, oh, la main de Dieu va pourvoir pour toi, mon ami, je te le promets. Dieu va pourvoir de toutes sortes de manières, même tes ennemis vont pourvoir pour toi. Même les sources que tu n'aurais jamais pensé que Dieu aurait pu se servir, Dieu va s'en servir. Quand j'étais pasteur jeunesse, on avait un projet de rénover des centres jeunesse, de la DPJ. Puis on avait vraiment besoin, c'était un projet à plus de 30 000 $ avec juste un petit groupe de jeunes qui déjà sont cassés. Personne ne donne là-dedans, ils sont juste cassés, on n'a pas de budget. Puis il a dit non, mais pour faire ça, ça nous prend au moins 30 000 $ pour rénover puis équiper ce qu'on voulait faire. Puis on avait quelques milliers là, dans notre petit budget jeunesse, mais on avait vraiment besoin de dons. Puis alors qu'on dit, on va prier, on va jeûner, on va appeler les jeunes à la générosité, mais on croit que Dieu va pouvoir. Puis après ça, quelques semaines passent, puis il y a un jeune qui m'écrit, puis qui me dit, ouais, pasteur JP, j'aimerais ça aller déjeuner avec toi, juste pour te parler. Puis là, moi, je ne connaissais pas vraiment le jeune homme. Je dis, parfait, on va aller déjeuner ensemble. Puis alors qu'on s'assoit ensemble au restaurant, tout de suite, je le reconnais, je l'avais vu. Je l'avais vu quelques fois venir le vendredi soir. Puis c'est le genre de jeune qui arrivait, que tu voyais que... Il y avait un passé lourd, mais que je me demandais son passé, est-il encore dans le présent? Je suis comme pas sûr. Tu sais, tu vois que le gars, il avait un air rough. Il parlait comme quelqu'un qui était peut-être pas sauvé ou juste un peu sauvé. Je sais pas si tu me suis là. Tu sais, juste son langage est juste assez en processus, disons. Tu sais, c'est en processus. Il a l'air tough. Il a l'air d'un background tough. Il arrive, il est poqué. Il parle tough. Il a l'air tough. Puis on est assis ensemble au resto. Puis il me dit, écoute, je viens depuis quelques semaines, là, les vendredis soirs, puis là, j'ai entendu le projet, puis j'ai entendu tout ça, puis ça m'a comme touché. Il arrive. Une liasse d'argent. Ça à table, au restaurant, plein de monde. Moi, je suis comme, wow, 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 wow. Dans ma tête, d'où elle vient, cet argent-là? Une espèce de liasse pliée qu'un élastique, là, tu sais, juste d'argent cash. Puis là, je suis juste comme, ce gars-là travaille pas au Costco, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Il paye pas cash comme ça, là, dans des emplois normaux, là. Je sais pas d'où ce que ça vient. Une liasse d'argent qui est là, puis il dit, gars, j'ai juste, on dirait, puis pas capable de mettre des mots, le gars là-dessus, mais il dit, c'est comme s'il faut que je le donne. C'est comme s'il faut que je le donne. C'est comme s'il faut que je le donne. Puis vient en moi, après ça, je sais pas d'où ça vient. Comment il a gagné cet argent-là? Il vient juste en moi. Un peu comme dans Exode. Ah, Seigneur, peu importe d'où cet argent vient, je prie que tu le sanctifies, je prie que tu le laves, mais cet argent sale va servir pour ton royaume. Je sais pas si c'était de l'argent sale, j'ai pas demandé, comme ça je suis ignorant et heureux, mais je fais juste des seigneurs. Là, j'ai dit, amène ça à l'église, là. Donne-moi pas ça ici dans le resto, ça fait juste bizarre. C'est pas le pasteur JP qui est là-bas à accepter de l'argent liquide comme ça. Amène ça à l'église. Comprenez ce que je veux dire, ce que Dieu va pourvoir de toutes sortes de manières, de la main de gens que tu pensais même pas. Et le peuple sort de l'Égypte avec tout ce qu'il avait besoin pour leur chemin maintenant jusqu'à la terre promise. Si j'honore Dieu avec ce qu'il y a dans mes mains, Dieu va pourvoir de toutes sortes de manières. Sa main va pourvoir pour moi. J'ai pas le temps, mais Dieu a pourvu par la manne quand il avait besoin de nourriture en plein désert, alors que Dieu les a libérés. Dieu a fait tomber la manne du ciel. Sa main a pourvu pour de la manne, pas juste l'argent des Égyptiens, mais après ça, c'était de la manne. Dieu va toujours pourvoir pour nos besoins. C'est sa main qui pourvoit. J'ai vu la main de Dieu pourvoir de tellement de manières. Tellement de manières. L'année dernière, quand que, on était une jeune église là, qui se démarre, là, mais juste d'avoir le. Alors qu'on est dans le budget, on a besoin d'acheter des choses, on a besoin de planifier les affaires, puis on a des équipements, acheter tout ça. Puis je reçois juste un coup de téléphone d'une église qui dit hey, on a un surplus, on priait, on a pensé à vous à l'unanimité. Est-ce que vous accepteriez un don de 10 000 $ Est-ce que ça pourrait vous aider? US. US. Seigneur, ta main qui pourvoit. Des manières qu'on ne peut pas imaginer. Quand on a ouvert l'église et qu'on priait pour la première réunion de prière de l'église, le premier rassemblement en personne de l'église en pleine pandémie, alors que les restrictions ouvraient, puis que la salle qu'on avait nous annule 2 jours avant pour dire on n'est plus à l'aise. Puis qu'on se met à prier pour dire on veut faire cette réunion de prière-là avec ceux qui veulent être là, 50 personnes maximum, on veut la faire. Puis on a reçu un coup de téléphone qui nous dit hey, moi j'ai un studio de danse. J'ai un studio de danse, c'est Joanne qui est là, qui vient à l'église maintenant ici, qui est là toutes les semaines, puis qui dit, j'ai un studio de danse, c'est pas une salle comme peut-être vous aimeriez, mais il y a des salles là-dedans. Puis on s'est retrouvés à faire cette première réunion de prière dans une salle de danse. Mais savez-vous quoi? Dieu a pourvu. Dieu pourvoit toujours. Si je prends ce que j'ai dans mes mains et je lui offre, je lui donne, si j'honore Dieu avec ce qui est mis dans mes mains et que je le place dans ses mains, sa main va venir sur ma vie. Comme sur Moïse. Et non seulement sa main est puissante, sa main va me protéger, mais sa main va pourvoir aussi. Et peut-être que pour toi, puis je termine avec cette pensée ce matin. Pour la troisième fois, je termine. Il y en a ici, là, je vais vraiment m'adresser parce que c'était fort sur mon cœur toute la semaine. Il y en a, tu essaies de joindre les deux bouts financièrement. OK? Tu essaies de tout faire, tu travailles fort, puis on travaille fort, puis les deux, vous travaillez, puis on essaie de tout faire. Comme pour la main puissante de Dieu. Tout le monde applaudit quand je dis la main de Dieu peut ouvrir des portes qu'aucune main humaine peut ouvrir. Je crois que la main de Dieu peut pourvoir comme aucune autre main humaine peut pourvoir. Mais c'est le même principe. Tout le monde applaudissait quand c'était la main qui va ouvrir des portes. Très silencieux quand je parle de la générosité financière, par exemple. Mais si j'honore Dieu aussi avec ça, si je prends ce qui est dans mes mains, que ce soit peu, que ce soit beaucoup, peu importe, c'est pas une question de nombre. Si j'honore Dieu avec ce qui est mis dans mes mains, je crois que sa main va venir pourvoir. Alors, la parole de Dieu pour toi aussi, c'est pas juste, il faut que je travaille plus fort, il faut que je fasse plus d'heures. Puis peut-être qu'il y a une portion, puis il y a une saison que ça va être ça. Mais ça ne va pas juste dire, comme pour la porte qui va s'ouvrir, il faut que je force plus fort. Il faut juste que je me soumette à ce que Dieu m'appelle à faire plus. Et dire, Seigneur, je veux prendre ce que j'ai, le peu que je peux offrir, je veux t'honorer avec ça. Et je veux croire que tu vas pourvoir pour tous mes besoins. Et je suis loin de prêcher l'évangile de prospérité en disant, si je donne 100$, Dieu va me donner 1000$. Ça, c'est pas biblique, puis ça n'a pas rapport. Mais je crois que Dieu peut pourvoir à tous mes besoins. Ça, c'est biblique, par exemple. Ça veut dire que si j'honore Dieu avec ce qui est mis dans mes mains, sa main va pourvoir non seulement financièrement, elle peut pourvoir pour un emploi, elle peut pourvoir pour une promotion, elle peut pourvoir pour des relations, pour des contacts, pour des salles, pour plein d'affaires, pour de la paix, pour de la joie, pour plein de choses. Sa main va pourvoir pour moi. Je t'invite à te lever à ta place parce que là, je vais me faire mettre dehors si on continue. Ce matin, c'est une parole pour quelqu'un. C'est le temps de changer de main. Qu'est-ce que tu tiens dans tes mains aujourd'hui? Ça peut être des dons, des talents, ça peut être des ressources, ça peut être tes finances, ça peut être ton temps, ça peut être tout ce que j'ai, des projets, tes ambitions. La parole de Dieu dit, si tu m'honores avec ça, ma main va être sur toi. C'est le témoignage de la vie de Moïse et je prie que ça devienne et que ce soit le témoignage de ta vie, que ça devienne le témoignage de ta famille, que ce soit le témoignage de notre Église. Pas de ce que nos mains peuvent produire, mais alors qu'on honore Dieu avec ce qu'il a mis dans nos mains, maintenant le témoignage de nos vies, c'est de voir la main de Dieu ouvrir les portes, tracer un chemin, protéger son peuple, pourvoir miraculeusement. Puis à la fin de nos vies, on pourra dire, oh, voici le témoignage, pas de ce que nos mains ont produit dans nos familles, ont produit autour de nous, mais ce que voici ce que la main de Dieu a fait. Voici la foi où Dieu a pourvu. Voici la foi où Dieu a ouvert la porte. Voici la foi où Dieu nous a protégés. Voici le témoignage où Dieu a restauré miraculeusement cette relation-là, qu'on a essayé pendant des années de restaurer. Puis un jour, Dieu a juste convaincu l'Esprit de Dieu qui a mis une conviction dans le cœur et il y a un processus de réconciliation qui est arrivé. Pas nos mains! Sa main. Et voici le témoignage de comment mon ado est revenu à Dieu. Pas à cause qu'on a forcé les choses, puis on lui a dit tout ce qui faisait de mal. Non! La main de Dieu est tombée sur lui et l'a convaincu et l'a ramené dans les voies de Dieu. Que ce soit notre témoignage. Pas ce que nos mains ont produit, mais ce que sa main a produit. Alors Seigneur, je te prie pour chaque personne au son de ma voix ce matin. Seigneur, t'as placé à chacun de nous, nous avons des choses dans nos mains, comme Moïse tenait son bâton. Et ce matin, je crois que comme Moïse, tu nous appelles à t'honorer avec ce que tu as placé dans nos mains, de prendre ce que tu as mis dans nos mains et de te l'offrir, de dire tout ce que j'ai t'appartient, Seigneur. Je veux t'honorer, je veux te glorifier, je veux que ma vie t'honore dans tous les aspects, tout ce que j'ai, je veux le déposer à tes pieds et dire, Seigneur, voici ce que tu as mis dans mes mains. Maintenant, je te prie, Seigneur, je veux voir ta main sur ma vie. Je veux voir ta main sur ma famille, ta main sur mes enfants, ta main sur mon mariage, ta main sur notre église, ta main dans mes relations, ta main sur ma carrière, ta main, Seigneur, dans mes études. Je veux que ma vie devienne comme Moïse, pas le témoignage de ce que mes mains peuvent produire, mais ce que ta main peut produire en moi, Seigneur. Alors que ta main, Seigneur, je prie qu'il y ait des témoignages qui vont s'élever dans les prochains jours, semaines et mois, des témoignages qui vont dire, voici ce que la main de Dieu a fait. Voici comment Dieu a ouvert des portes. Voici la main puissante de Dieu, ce qu'elle a fait. Voici la main de Dieu, comment elle m'a protégé dans des circonstances où je pensais que nous, on avançait, mais non, la main de Dieu était en arrière du vélo et la main de Dieu nous tenait, me protégeait pour m'empêcher de tomber. La main de Dieu qui était là et la main de Dieu qui pourvoit. Seigneur, si nous t'honorons avec ce que tu as mis dans nos mains, je crois que ta main de provision va être là, comme sur le peuple d'Israël, alors que tu as ouvert les portes pour eux, alors que les Égyptiens leur ont donné leurs ressources, alors que la manne tombait du ciel. Tu as pourvu pour eux. Et j'ai pris ta provision sur les familles. J'ai pris ta provision sur notre Église. Pas ce que nos mains peuvent produire, mais ce que ta main peut produire, Seigneur. Et j'ai pris dans le nom de Jésus. Tout le monde dit Amen et Amen ce matin.